Le commentateur de football de demain, c'est d'abord un passionné. Il n'a pas forcément fait d'école de journalisme. Il a du style et il n'était peut-être pas né en 98. Ce qui est sûr, c'est que le commentateur de demain, c'est un compétiteur. Il va nous le montrer sur Canal+.
Trouver une nouvelle voie pour le foot, c'est le défi que se lancent Laure Boulot, David Ginola et Hervé Matou dans l'émission Au Micro, ce soir seulement sur Canal+.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Pour le fan fort.
Vous savez, quand vous prendez des buts, vous les prenez pas sur la largeur. Hein.
Les acteurs, ce sont les joueurs, c'est eux après sur le terrain. Il y a besoin qu'il y ait une évolution aussi en interne.
Je l'attendais. Et que ça vienne d'RMC, je n'en doutais pas.
Si je réussis, bah dans les bacs, tu auras mon single. Ah. En attendant, Gilbert, fais-moi plaisir, mets-moi dans le single.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, l'After est là comme tous les soirs jusqu'à minuit. L'After, la seule émission en direct à la radio. 7 jours sur 7. Et bonjour à toi qui nous écoutes. Un podcast, casting du soir, casting du dimanche soir. Kevin Diaz, bonsoir. Salut à tous. Walid Acharchour, alias Grand Corps Malade. Il est avec sa béquille. Alors les mauvaises langues diront pas Grand Corps Malade, mais je ne
Gros Corps pas. Malade.
Ouais, mais
on peut y aller, il n'y a pas de.
Ça va. Bonsoir, Walid Acharchour.
Bonsoir, Nico. Bonsoir, Kevin.
Ah, oui, d'accord.
Bonsoir à tous.
Oui.
Une de plus.
Une de plus. Elle n'est pas faite encore.
Oui, enfin, oui.
Si tu démarres, tu peux te péter à la deuxième minute de jeu.
Oui, mais
c'est
aura...
une sélection.
On aura fait le bonjour, quand même.
C'est une sélection.
Exactement. À la jury éthique.
Tu sais, on a les décomptes, hein, nombre de sélections, tout le monde à l'after.
Ah, oui.
Ouais.
Et quoi, tu te rapproches de Lilian Thuram, toi?
Toi.
Non, toi.
C'est pas mal, ouais.
Toi, t'es là depuis combien de temps, l'after?
4 ans et demi, ouais.
Ah, c'est beau quand même.
Déjà, quand même.
Ouais.
Kevin, pareil, à peu près.
Et voilà,
même génération.
Ouais, même génération.
Même génération.
On a débuté ensemble.
C'est un peu Dembélé Mbappé contre l'Angleterre.
Tu vois, t'es à 37 émissions.
D'accord, c'est pas mal.
T'en as 5 à 7 sur 10.
Oh, ok.
T'as une moyenne de 4,5, me dit-on.
Ah oui, d'accord.
Ton note aussi. Hein.
Ah oui, c'est.
Ah ouais,
très précis.
Ah ouais,
c'est
assez...
pas mal, hein.
Oui, c'est assez.
Bon, t'es jeune, hein, tu.
Oui, oui.
J'ai en pleine maturité professionnelle. T'es pas encore en pleine maturité professionnelle et personnelle, comme dirait
Mbappé. Je suis sur les notes hautes ou moyennes de...
on note les jeunes joueurs difficilement, on est à l'antenne.
D'accord.
C'est l'after, on est ensemble jusqu'à minuit, comme tous les soirs, bien sûr. L'équipe de France au programme. Quelle 11 demain contre l'Irlande. Peu de changements a priori. Giroud pourrait entrer dans l'équipe. Tiens, question aussi. Kolo Muani doit-il être titulaire, quoi qu'il arrive, dans cette sélection? On va en débattre. On écoutera le président de l'équipe de France, Kylian Mbappé, qui est à couvert de rose. À sa manière, Adrien Rabiot, il a fait un récital en conférence de presse.
Mais le prof principal.
Quand tu te dis, mais pourquoi Didier vient pas en conf derrière? Ça sert à rien, Didier. Tout a été dit. Il a quasiment annoncé la compo, Mbappé.
Pour le coup, ça nous change.
Ouais. On parlera d'Adrien Rabiot, hein, il en a parlé lui aussi. Puis comme on n'a pas eu le temps de le faire en cette fin de semaine, on va revenir sur les déclarations de Nasser Al-Khelaïfi. Vendredi, à nos confrères de Marca, il a avoué travailler aux prolongations de Mbappé, de Messi et de Ramos.
Incompréhension
totale de Walid Acharchour,
ouais,
qui développera un avis à partir de 23h30. Vous écoutez l'After, il est 23h06 sur RMC. Vous nous appelez au 3216, le hashtag RMC Live sur Twitter et l'application RMC Sport. Direct Studio pour envoyer vos commentaires. C'est parti pour l'After. Et nous allons à Dublin, les gars, en Irlande, retrouver un de nos envoyés spéciaux sur place. Arthur Perrault est avec nous dans l'After. Salut Arthur.
Salut messieurs, bonsoir à tous.
Salut Arthur.
Bienvenue dans l'After, cher Arthur. Alors il paraît que Deschamps joue le mystère, hein, quant à sa compo demain face à l'Irlande.
Ouais, totalement, avec cette séance d'entraînement ce soir à 19h à la Viva Stadium, et Didier Deschamps qui a décidé de brouiller les pistes, puisqu'on a eu le droit à une séance de passes, de jongle, un exercice avec des débordements et des centres, et aucune mise en place au cours de cette séance. On a aussi vu Kylian Mbappé tenter quelques reprises de volée, avec plutôt de la réussite. Mais voilà, aucun indice donné par le sélectionneur qui peut-être se savait observer. Et il faut dire que voilà, il avait un peu fait passer le message en conférence de presse, comme il sait très bien le faire, en disant que peut-être qu'il allait faire quelque chose, mais que ce n'était pas sûr. Et finalement, on a eu le droit à une séance un peu plus normale, un peu plus légère.
Pas de mise en place, les gars. Bon, voilà, veille d'un match qui reste important, hein, de qualif pour l'Euro. Faire agir.
Non, mais
c'est-à-dire, il privilégie le fait de ne lâcher aucune information, aucun indice sur sa composition, plutôt que de faire une vraie mise en place.
Écoute, après c'est sa façon de travailler. On en avait déjà parlé avec Arthur, notamment pendant la Coupe du Monde, où moi je demandais est-ce qu'il y a eu quand même une mise en place, est-ce que les joueurs savent qui va jouer, comment ils vont jouer. Non, la méthode Didier Deschamps, c'est le jour J, être prêt le jour J.
Après, je pense pas qu'il va y avoir de changement non plus.
Voilà, c'est peut-être ça aussi, Walid. C'est peut-être qu'il assume le fait ou il cache le fait d'être dans la continuité de ce qu'il a choisi face aux Pays-Bas et qu'il estime que pour l'instant ça mérite
son jeu.
Ça ne vaut pas le coup de faire une répétition générale et on l'a vu échanger quand même avec certains cadres. Hein. Je pense à Adrien Rabiot, avec Dayot Upamecano. Voilà, c'est des joueurs avec lesquels il a longuement échangé pendant cette séance.
Mais de toute façon, on n'a pas trop de doutes sur le fait qu'il devrait reconduire quand même une équipe sensiblement la même.
C'est ça.
Peut-être à un poste près, peut-être
un ou deux
et encore.
Ouais.
Alors le poste c'est quoi? C'est le numéro 9, Colomoini, qui pourrait céder sa place à Olivier Giroud, mais rester dans l'équipe quand même, c'est ça, Arthur?
Oui, il y a plusieurs interrogations, on va les lister et on va voir. Et on va, c'est exactement ce que j'allais dire, Walid. On va voir si vous allez être d'accord. On peut penser à Kingsley Coman qui a quand même été peu inspiré, même s'il a fait pas mal d'efforts sur le match face aux Pays-Bas, peu adroit sur les côtés. On l'a vu plus intéressant en seconde période lorsqu'il rentrait dans le cœur du jeu. On peut penser à Jules Koundé et forcément que la question se pose de Benjamin Pavard parce que ce serait aussi pour Didier Deschamps une forme de mea culpa, de refaire confiance à Benjamin Pavard dans ce rôle-là. Et puis évidemment, est-ce que Olivier Giroud sera titularisé dans l'axe et est-ce que quand Randal Kolo Muani basculera à droite? On va dire que c'est les quatre principaux points d'interrogation à la veille de cette rencontre.
Ouais, c'est ça, c'est que je pense que c'est la deuxième grosse équipe avec à égalité avec la Grèce. Peut-être faudra voir quel niveau ils ont sur ces qualifications là. Mais il faut rester sérieux et solide dans un déplacement contre l'Irlande. Donc on voit pas énormément de changements. Après c'est vrai que Coman en première mi-temps, même si on sait que le jeu penche énormément à gauche, donc c'est plus difficile pour les joueurs à droite. On l'a encore vu à la Coupe du Monde. Mais Diaby a fait une belle entrée. Kolo Muani peut jouer aussi sur un côté. Et puis tout va dépendre aussi du choix Giroud, parce que est-ce qu'il va privilégier un petit peu les duels, les duels aériens avec ce que peut imposer les Irlandais ou continuer avec Kolo Muani, ça va être la grosse question.
Oui, c'est vrai qu'on peut penser que Olivier Giroud pourrait être titularisé justement parce que c'est une équipe où il y a beaucoup de joueurs de première ligue, surtout de Championship et de League One. Donc c'est un jeu qui peut être assez direct où on peut utiliser la qualité de jeu de tête, de déviation d'Olivier Giroud, sachant que je pense que les Irlandais vont quand même attendre l'équipe de France en bloc bas. En tout cas, ce serait le plan de jeu puisque cette équipe, elle aime avoir des espaces, elle aime contre-attaquer. Je suis pas sûr qu'ils vont essayer de relancer court comme les Pays-Bas, mais ça, on va pouvoir le voir demain. Mais en effet, ça fait partie des choix qui peuvent être envisagés.
Avant le rassemblement,
d'avoir un point de fixation, tout simplement face à cette équipe-là.
Et même dans la surface de réparation, avoir un joueur un peu moins mobile, même si Kolo Muani peut le faire. Mais moi, j'imaginais avant le début du rassemblement, quand la liste était tombée, que un Kolo Muani était beaucoup plus apte à jouer contre les Pays-Bas et un Giroud contre l'Irlande. Donc, ce serait plutôt logique, surtout qu'on a vu que sur la Coupe du Monde, notamment sur cette finale, qu'il y en a un qui a démarré et un autre qui a terminé. Ce serait pas surprenant qu'il fasse démarrer un Olivier Giroud ou qu'il déplace un Kolo Muani ou qu'il le fasse rentrer sur les 30 dernières minutes.
Merci Arthur, très bonne soirée à toi à Dublin. On te retrouve demain bien sûr pour l'envoi de ce match 20h45 Irlande-France. Alors, il est venu en conférence de presse, on ne savait pas s'il allait enchaîner Kylian Mbappé, il avait dit que c'était pas systématique et automatique de venir en tant que capitaine en veille de match. C'est le sélectionneur des champs, c'est lui qui l'a dit en conférence de presse, qui a décidé qu'il serait présent en fin d'après-midi pour parler aux médias français et irlandais. Bon, il a fait essentiellement la même conférence qu'il y a 3-4 jours. Tranquillité, aisance, assurance,
sérénité.
Certains diront peut-être, attention, je vais me faire taper dessus, insolence parfois.
Oh, c'est insolente facilité quand même.
Insolente facilité. Tiens, on va écouter déjà une première réponse de Kylian Mbappé sur Randal Kolo Muani. Est-ce qu'il a changé le visage de l'attaque de l'équipe de France et qu'est-ce qu'il permet de nouveau dans ce groupe bleu? La réponse de Kylian Mbappé.
Un attaquant qui offre d'autres perspectives de jeu à notre équipe. Il est capable à la fois de jouer sur des attaques placées, de jouer sur des attaques rapides. C'est un attaquant qui est complet techniquement, qui apporte aussi beaucoup d'énergie. Énormément, il a un volume de course impressionnant. Je pense que pour l'équipe, c'est vraiment une flèche à notre arc, une nouvelle. Mais franchement, on est très content de son match de vendredi. J'espère qu'il va continuer comme ça demain. Et franchement, il y a rien à dire sur lui. J'espère en tout cas qu'il va marquer, parce que pour un attaquant, c'est bien de marquer aussi, même quand on vous dit que vous avez fait un bon match. Et voilà, être récompensé par un but. J'espère que demain, on va faire en sorte qu'il puisse marquer.
Voilà, bon. Il est à deux doigts du jingle. Hein.
Non, il est bah,
il
pas
a, deux doigts.
Il a clairement le jingle.
Il a ajouté une flèche à son arc. Ouais. Totalement. Ouais. On va l'insérer dans le jingle arc de l'after, bien sûr. Hein.
Deux conférences de presse.
Corde à son arc.
Déjà un jingle, quand même. Hein.
C'est fort.
Attention, Guillaume Mbappé.
On va beaucoup l'entendre. On va voir quelques failles, quand même, peut-être.
Non, sur l'analyse sur Colomboigny, il a la même que nous.
J'ai l'annonce de la compo. Enfin, la compo.
On sait, on ne sait pas.
On va le faire jouer. On va le faire marquer demain.
On va le faire marquer demain. Ça, c'est assez.
Je sais pas s'il utilise le on comme tu l'utilises toi parfois.
C'est-à-dire
le on, c'est le jeu majuscule, quoi. Tu
peut-être,
vois.
Peut-être, mais en tout cas, sur l'analyse, on est complètement d'accord. Mais ce qui est
toi,
hein,
ou on, vous.
Bah non, on avec Kevin, okay. Avec tout le monde. Tout le monde est d'accord sur la qualité qu'amène Colomboigny dans cette équipe et surtout sur la palette globale. Maintenant, ce qui est marrant et drôle, c'est la dernière phrase sur le on va le faire marquer demain. C'est ouais, on a vraiment c'est... l'impression, de toute façon, dans toute la conférence de presse, quand il a énuméré un petit peu tous ses élèves en mode prof principal avec Rabiot.
En tout cas, c'est
le guide, quoi. Voilà,
je ne sais pas si
il y est, quoi. Il est dedans.
Je ne sais pas si c'est le prof principal. En tout cas, c'est clairement le délégué.
Ouais, exactement.
Le délégué, mais pas le délégué de classe, le délégué du collège, tu vois. Celui qui est.
Le CPE, mec.
Voilà.
C'est même pas un délégué, c'est bien plus que ça, Mbappé.
Il le gère plutôt bien.
C'est le coach. Non, mais il le gère plutôt bien. Après, il a des propos toujours très justes. J'avais l'impression d'entendre un futur consultant. Je sais pas si ce métier l'intéressera. Maintenant, c'est vrai que l'équipe de France avec Colomboigny, c'est clairement une solution qui est très, très intéressante par sa polyvalence, par son travail avec et sans le ballon. Et donc, je pense qu'on va en prendre pour quelques années avec Randal Colomboigny. En tout cas, s'il reste avec cet état d'esprit.
Vous préférez un Colomboigny en neuf qu'un Giroud dans l'absolu par rapport à ce que Giroud a fait aussi en équipe de France.
À l'âge des deux, oui.
L'amour du jeu, vous avez aussi, les gars.
Et deux profils différents.
Non, mais c'est pas pareil. Après, il y a un joueur qui a plus de 35 ans.
Exactement.
T'en as un autre qui est jeune, qui est dans la fleur de l'âge, qui est énergique. Voilà, ça fait partie de la nouvelle génération. Et il va bien falloir un jour que Olivier Giroud laisse sa place.
Tu préfères quel profil finalement?
Tout dépend de l'adversaire. Tout dépend de ce qu'il veut mettre en place.
Peu importe l'âge là aujourd'hui. Le profil.
Comme j'ai dit, face à un bloc bas où c'est resserré, où c'est compact, où il va avoir des centres, où il va y avoir besoin de densité, tu peux bien sûr faire jouer Olivier Giroud pour sa science des déviations, pour son jeu de tête, pour sa finition devant le but. Maintenant, face à une équipe qui va peut-être un peu plus sortir et qui va essayer d'aller gagner le match face à l'équipe de France, là, tu peux avoir un Randal Colomboigny facilement en numéro 9.
Et puis la différence avec Colomboigny, c'est qu'on l'avait vu sur les derniers matchs de Coupe du Monde, on était beaucoup trop lisible pour les adversaires, où il y avait des prises à 2, des prises à 3 sur Kylian Mbappé, on avait un Dembélé trop bas, et on usait de long ballon sur Olivier Giroud. Là, on l'a vu contre les Pays-Bas, Colomboigny est capable de s'extirper sur un côté, il est capable de demander en profondeur, de demander dans les pieds. On l'a vu sur le troisième but où il fait la feinte.
Magnifique.
Il sent le foot, on le voit bien avec Francfort depuis le début de saison. Il correspond totalement au football moderne et à ce que demande le football moderne. Kylian Mbappé le dit à juste titre. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux profils différents. Que ce soit en sortie de banc ou pour être titulaire, voilà, Giroud et Colomboigny et même à Marcus Thuram, ils offrent une palette différente. Maintenant, je pense que jusqu'à l'Euro, normalement, surtout qu'au poste de numéro 9, on n'a pas énormément de choix. Je pense que dans un an et demi, il faut travailler sur Colomboigny parce que c'est ce que Giroud, le poids des années, va commencer un petit peu à peser, quoi.
Benjamin est avec nous, 32-16, supporter de l'équipe de France. Salut Benjamin.
Bonsoir à tous.
Heureux de t'accueillir dans l'after. Benjamin. Alors, on annonce peu de changements demain soir pour les Bleus face à l'Irlande. Ça te va? Tu veux voir la même équipe que contre les Pays-Bas ou tu voudrais plus de changements, toi?
Bah moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il fasse tourner un petit peu l'équipe, qu'il puisse concerner tout l'effectif, parce qu'on sait que l'Euro, ça commence aujourd'hui, et qu'on puisse voir qu'il laisse une chance à tous ceux qu'on peut jouer par rapport au premier match. Donc, c'est les deux frères Thuram, pourquoi pas Kamavinga, Veretout, changer de gardien également, histoire d'inclure tout le monde dans le début de l'histoire de l'Euro 2024, afin qu'on puisse voir que le fond, même la deuxième partie d'effectif, elle est aussi bonne et qu'on puisse compter sur elle depuis le début.
Alors,
c'est pas un peu trop tôt.
Attention Benjamin, parce que là tu joues quand même face à une équipe d'Irlande qui, comme le disait Walid, est peut-être la deuxième équipe derrière les Pays-Bas en termes de niveau ou de potentiel avec la Grèce. Tu vas pas changer de gardien alors que c'est son
premier match.
Non, entre sixième sélection.
Oui, c'est la sixième sélection d'équipe de France. Ouais, mais c'est des joueurs qui ont besoin de jouer ensemble. Ouais. Konaté ou pas Mécano pareil, même s'ils ont joué en club en équipe de France, c'est autre chose. T'as un joueur comme Koundé qui a pas tant de sélection que ça. Donc tous les joueurs joueurs qui sont là, à part les 3-4 cadres, c'est des joueurs qui découvrent l'équipe de France en tant que titulaire. Donc, désolé de te contredire, mais c'est pas du tout le bon moment pour faire tourner.
C'est un match important, Benjamin, quand même, tu sais. Il faut.
C'est un match super important, mais si on les concerne pas tout de suite par l'histoire, est-ce qu'on va les utiliser lorsque ça va être sur les qualifiés?
De toute façon, Didier Deschamps, il n'est pas dans le genre de concerné. Hein. Il a 13, 14, 15 joueurs, et puis c'est avec ceux-là qui tournent.
Maintenant, on passe sur un management à la Mbappé. Mbappé, maintenant, c'est le boss. Est-ce que Mbappé, s'il dit j'ai envie de faire tourner, est-ce que Deschamps va suivre?
Non, mais n'allons pas jusque-là non plus.
Donc maintenant, Mbappé, c'est l'entraîneur-joueur?
C'est plus le CPE, c'est le proviseur du Bahut.
Non, mais puis en plus, sur le fait de concerner, là où je te rejoins pas, c'est que Kefren Thuram est rentré pour son premier rassemblement contre les Pays-Bas. Il a apporté avec des joueurs en sortie de banc. Là, t'as un match contre l'Irlande. Si le score est plutôt large, s'il y a 2-0 à la 60e, alors pourquoi pas voir 2-3 têtes comme contre les Pays-Bas vendredi dernier, mais d'entrée faire jouer des joueurs qui viennent d'arriver, comme tu viens de citer, en plus tu cites Kamavinga, mais Kamavinga s'il joue, il va jouer plutôt latéral gauche et pas au milieu de terrain. Veretout, moi je pense que le milieu de terrain Tchouaméni, Rabiot, Griezmann fonctionne très bien, pourquoi le changer? On l'a évoqué avec Arthur tout à l'heure, hein, ça se joue peut-être aller sur Diaby pour Coman. Diaby connaît un petit peu l'équipe de France, mais si c'est pour faire tourner, pour faire plaisir à tout le monde, on n'est pas dans la coupe du coin là, on est quand même dans une qualif qu'il faut assurer pour qu'après, par contre, sur les prochains rassemblements, avec un peu plus de marge, on puisse avoir des nouvelles têtes.
Mais ça peut arriver vite. Hein. Je rappelle que les deux premiers sont qualifiés pour l'Euro 2024. Donc, assez rapidement valider ton ticket.
Elle t'avantage quand même. Hein.
Pour l'Euro 2024. Merci Benjamin de Raphaël 32-16. Excellente soirée. Toi, tu reviens quand tu veux, les gars. Je veux qu'on écoute également Kylian Mbappé. Merci sur Adrien Rabiot. Tu as commencé à en parler tout à l'heure. Hein. Bon, Rabiot, le débat n'existe plus. Titulaire en bleu comme à la Juve. Comment Mbappé juge l'évolution d'Adrien Rabiot qui va avoir 28 ans dans une semaine?
Un joueur qui je pense est arrivé à une maturité, que ce soit footballistique ou même dans sa vie, on voit que c'est un joueur et un homme complètement différent. J'ai la chance de le connaître à Paris il y a longtemps. Là, on voit vraiment quelqu'un de posé, qui est sûr de sa force, qui est sûr de ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Et ouais, personnellement, il m'apporte beaucoup de confiance. Quand je sais que je l'ai derrière moi, voilà, ça me donne beaucoup de confiance. Je sais que derrière moi, il y a du solide, je sais qu'il fait les choses bien. Et il a pris une importance dans ce groupe, dans cette équipe aussi, on le voit sur le terrain, mais même dans le groupe, il s'affirme de plus en plus, et c'est bénéfique pour l'équipe de France, et c'est bénéfique pour lui, parce que je pense que le talent, il l'a toujours eu.
C'est une excellente réponse. Il y a de la matière, il y a du contenu, il y a du vécu commun.
La phrase, moi.
Il y a de l'humain également, il est mature dans sa vie pro comme sa vie perso.
La phrase très drôle, encore une fois, c'est « je l'ai connu ». Il y a très longtemps au Paris Saint-Germain, alors qu'Mbappé avait 11 ans et demi, quoi. Non, mais ça, c'est la maturité du mec.
Je pense que Rabiot, quand il écoute ça le vexe pas du tout, il doit sourire.
Ah non, je pense pas. Je pense qu'il est même plutôt content en se disant je suis adoubé par Kylian. Je vais quand même continuer à jouer, parce qu'il faut dire les choses. Nico, c'est son porte-flingue, Rabiot, sur le terrain. C'est celui qui lui permet de moins défendre. On l'a vu à la Coupe du Monde, surtout qu'il est sur un côté où Théo Hernandez aime bien monter, Kylian Mbappé aime pas défendre, donc il sait très bien que c'est sa caution un petit peu équilibre.
D'ailleurs, il manque pas un milieu au Paris Saint-Germain et Rabiot, il est pas libre en fin de saison. Non, mais parce que bon, Kylian Mbappé,
rien n'est impossible.
Il a beaucoup d'influence en équipe de France, mais je
pense qu'il peut soumettre le nom
au Paris Saint-Germain encore plus. Oui. Mais d'ailleurs, je l'ai dit il y a quelques semaines, je pensais que j'avais vu que tu en avais parlé aussi, mais dans un projet un peu plus parisien.
Le projet RERD.
Voilà. Le projet.
J'ai pas entendu.
Ah, tu connais pas le RERD. Projet RERD avec beaucoup de joueurs d'Île-de-France entourés de 3-4 étrangers de très grande qualité.
Et puis en plus, il y en a quelques-uns équipe de France, les Konaté, tout ça.
Ah bah oui, il y en a. Et puis même, tu peux faire Évreux un peu à côté de l'Île-de-France, ou pas Mécano. Ouais, t'inquiète pas, tu peux rallier. Non.
Mais c'est vrai que Adrien Rabiot, aujourd'hui, c'est un joueur qui est vraiment très important pour l'équipe de France. Et comme dit Kylian Mbappé, pour le rejoindre, même s'il nous a tous fait sourire, et je pense qu'on va prendre beaucoup de plaisir à suivre ses conférences de presse, Adrien Rabiot, c'est quelqu'un qui a progressé, mais qui a toujours eu ce talent-là. Mmh. Tu voyais quand même, le mec, il a 90, oui. Il a le pied gauche.
Kylian a dit qu'il était mieux dans sa vie, ça compte.
Mais bien sûr, après la maturité, tu sais, il y a une phrase sur laquelle je ne suis pas d'accord, et je l'ai répété souvent, je vais le faire une nouvelle fois ce soir. Il y a une phrase où pour moi Kylian Mbappé s'était trompé, même si cette phrase a été souvent reprise, c'est quand il dit à moi on me parle pas d'âge. Mais bien sûr qu'on te parle d'âge. À toi aussi, t'es comme tout le monde. Ok, t'es un peu plus mature que les autres et clairement t'es quelqu'un
de très. Je parlais de la maturité d'un joueur arrive entre.
Bien sûr, la maturité d'un joueur, elle arrive entre 25 et 30 ans. C'est clair. Voire même peut-être après pour certains. Mais
il y en a qui parlent de 28-32.
Voilà, 28-32, c'est ça. C'est là où tu peux combiner en fait la maturité physique. C'est-à-dire que t'es encore au top de ta forme physique, mais t'as la maturité psychologique et t'as l'expérience des années
bons choix,
années
bien sûr.
Voilà, donc après, ça veut pas dire qu'avant ça, t'es pas bon, hein, mais.
Bien sûr. Mais c'est là où t'es le meilleur,
exactement. Mais tout va avec. Et c'est vrai que Rabiot, sa nonchalance a souvent été frustrante sur le terrain, que ce soit en équipe de France ou même.
C'est les expériences aussi.
La régularité. Mais
il dit qu'Allegri lui a beaucoup apporté, par exemple.
Peut-être, mais. Et comme un Upamecano sur cette Coupe du Monde, il y a des joueurs qui se sont affirmés et Rabiot en a fait partie. Et peut-être aussi que au milieu de terrain il y a des joueurs qui ne sont plus là, Pogba.
Exactement. Notamment, je crois que ça l'a libéré.
Peut-être que ça libère dans un groupe. Hein.
C'est ce qu'on dit. Et une carrière, c'est pas que toi et ton talent. C'est toi et l'entraîneur que tu rencontres. Mmh. C'est toi et le concurrent qui se blesse au bon moment.
Et l'alignement des planètes.
Exactement. Et ça forcément c'est très très important quand tu regardes ta carrière ou quand tu suis la carrière de quelqu'un.
Rabiot a besoin d'être aimé et responsabilisé. Hein. C'est ce qui a déjà été dit. Farid est avec nous 32-16. Salut Farid.
Salut les gars, bonsoir.
On va t'accueillir. Tu es de l'after, Farid. Bon, alors, est-ce que tu veux du changement demain ou pas, toi ? Farid, es-tu avec nous ?
Pour changer le réseau.
Farid, ah oui, là, t'es sur un Ola Itineris, là. T'as deux barres.
Et l'en Edge.
Je t'écoute, Farid, vas-y.
Oui, déjà, en préambule, je voudrais dire, parce que j'ai eu Kevin, là, dans l'émission, vendredi soir.
Oui.
Et on avait débattu, là, du premier but. Moi, je jugeais qu'on n'était pas dans une phase de transition pure sur ce premier but.
Ouais.
Et en ayant revu le but après le match, Kevin, tu avais tout à fait raison. Hein.
C'est merci,
l'exemple
Farid.
Même du but sur transition, hein, le premier but. Hein.
Merci Farid.
Rendons à César ce qui appartient à César.
Tu peux l'appeler César non plus, Kevin Diaz. Appelle-le Kevin, c'est déjà très bien. Vas-y Farid.
Oui, donc sur le match de demain, écoutez, moi, sur est-ce qu'on aura un roulement comme ça, tout de suite, dans la compo de départ, je le pense pas. Pour ça, je partage plutôt votre avis.
Toi, tu ferais quoi, Farid ?
Kevin, pardon ?
Oui, je disais, tu ferais quoi, toi ?
Ben, je ferais quoi ? Moi, demain, je repartirai avec le 11, le même 11 que vendredi soir. Bon, après, j'aurai une animation différente par rapport à l'adversaire qu'on va affronter. Je pense que ce qui va surtout changer par rapport au match des Pays-Bas, c'est que, parce que là aussi, là-dessus, tu avais raison, on va peut-être jouer en bloc médian haut plus longtemps, c'est-à-dire peut-être même une mi-temps par rapport aux Pays-Bas où on est vite redescendu assez bas dans ce match-là. Et une animation au milieu de terrain où on va voir certainement un Griezmann qui sera plus proche du numéro 9, bon, qui sera peut-être Giroud ou Colomiani. Ça, c'est le doute que j'ai comme vous. Mais bon, voilà, on aura peut-être une animation différente au milieu de terrain avec un Griezmann qui sera plus près pour les seconds ballons, qui sera plus près du numéro 9, qui ne sera pas dans un rôle de 8, peut-être dans un rôle de 8-10. Et bon, et moi, ce que j'attends sur ce match, c'est, moi, je suis encore toujours dans la continuité de notre fameuse Coupe du Monde et belle Coupe du Monde. C'est toujours essayer de voir les systèmes de verrouillage sur les côtés, quoi. Surtout avec, contre l'adversaire comme l'Irlande, qui va certainement beaucoup passer par les côtés, par les centres, les verrouillages sur les côtés, les fermetures, surtout côté gauche derrière Mbappé, comment ça peut se passer, comment ça va coulisser.
De toute façon, c'est vrai, Farid, et on en parlait tout de suite avec Adrien Rabiot. Il est très important, Adrien Rabiot, hein, c'est le nouveau Matuidi, c'est-à-dire que c'est lui qui fait énormément de compensations à gauche derrière Kylian Mbappé. On a aussi un Théo Hernandez qui monte beaucoup, donc Adrien Rabiot doit des fois aller là-bas. Bon, il y a aussi Upamecano qui peut et c'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant finalement d'avoir ce système. Alors on a plus la symétrie au milieu de terrain avec Deschamps. Maintenant, on l'a derrière, c'est-à-dire qu'il y a trois défenseurs centraux qui sont Koundé, Upamecano et Konaté de formation. Et puis après, t'as Théo Hernandez qui est quasiment un attaquant et qui prend beaucoup son couloir, mais ça permet d'avoir un équilibre avec les trois autres. Donc c'est pour ça que je disais que ça pourrait être intéressant même d'avoir un Pavard ou un Kaloulou qui en plus joue avec Mike Maignan et avec Théo Hernandez en club et peut jouer et latéral et central. Donc des solutions pour Didier Deschamps, il y en a. Maintenant, il va falloir qu'il arrive en effet. Il faudra aussi voir cette équipe de France. On le verra peut-être pas dans ses qualifications, peut-être au match retour face aux Pays-Bas, mais il faudra voir cette équipe de France comment elle a réagi quand elle est un peu plus en difficulté aussi.
Merci Farid d'avoir fait le 32-16. Tu peux rappeler demain soir pour le débrief dans l'after de ce match entre l'équipe de France et l'Irlande. Je voulais qu'on écoute également un dernier extrait de la conférence de presse de Kylian Mbappé. Il est à 38 buts, vous le savez. Il n'est plus qu'à 3 buts des 41 donc de Michel Platini, légende du foot français et mondial. Est-ce qu'il y pense? Écoutez sa réponse.
Bah, c'est à la fois un honneur et c'est à la fois la prochaine cible à battre. C'est comme ça. Je vais continuer mon chemin jusqu'en haut. Mais Michel Platini, c'est une légende absolue. Hein. Que je le dépasse demain ou après-demain, ça restera Michel Platini, une légende incontestée du football français. Mais comme vous l'avez dit et comme je l'ai dit, moi je vais continuer ma route et ça passera par Michel Platini.
Alors, précision, ça a été écrit partout sur les sites, c'est la cible à abattre. Il dit la cible à battre.
Hein. À battre.
Petite nuance quand même.
Oui.
Ouais. Un peu moins agressif quand même. Ouais. Mais il y va franchement, le bulldozer Mbappé. C'est vrai que c'est un choc culturel pour nous Français. On n'a pas l'habitude d'avoir une telle franchise.
Oui, mais c'est bien.
Une telle audace.
On va s'habituer. Bien sûr. C'est marrant, mais on va s'habituer.
Il faut pas s'insurger de ça, en fait.
Non, le football, il a changé, Nico.
Le football, il a changé. Et surtout, Kylian Mbappé qui s'inspire, je sais pas s'il s'inspire, moi j'ai jamais discuté avec lui, mais en tout cas, je sais qu'il aime beaucoup les sports américains, bien notamment sûr. Le basket, notamment c'est le LeBron James.
Bien sûr.
Et c'est des joueurs qui n'hésitent pas à te dire qu'ils sont là pour les records, qu'ils sont là pour.
Les légendes.
Qu'ils sont là pour battre tout ce qu'ils peuvent battre et bah c'est un peu la mentalité aussi Cristiano Ronaldo forcément et aujourd'hui par contre alors ça m'a fait quand même sourire parce que j'ai vu sur une émission ce soir qu'on était en train de s'extasier que Kylian Mbappé ait répondu en anglais et qu'il parle aussi espagnol. Alors bien sûr c'est très bien, c'est quelqu'un de très intelligent, il a un très bon accent en plus dans les deux langues, mais ça va, c'est pas le seul jeune français de 24 ans qui parle deux autres langues quand même.
Il n'a jamais joué à l'étranger
ouais mais ça va,
il parle couramment espagnol anglais.
Ouais, c'est pas commun non plus Kevin.
C'est pas commun, malheureusement, mais c'est commun dans beaucoup de pays quand même.
Oui, mais en France, ça dénote en France.
Ouais, mais ça devrait l'être quand même un peu plus.
Un joueur français qui n'a jamais joué à l'étranger.
Pas s'extasier de tout non plus.
D'accord, oui, je sais pourquoi il dit ça, Kevin.
Parce qu'il faut
Kevin parle 12 langues.
C'est pas très grave ça, mais je veux dire.
Moi j'en parle 12.
Juste ça.
Vous emballez sur un gamin d'un 4 ans qui parle anglais et un peu espagnol.
Moi j'ai vu très peu de joueurs français, en tout cas de ma génération, depuis que je suis le football.
Ça c'est malheureux.
Sans parler de joueurs.
Sans parler de joueurs.
Il y en a
français, espagnol.
Il y en a quand même. Moi j'en connais en tout cas.
Faut saluer Kevin.
Et bien sûr que c'est très bien ce qu'il fait.
Moi c'est plutôt la dernière phrase.
On peut pas s'emballer de tout non plus.
La dernière phrase sur Michel qui me régale, c'est sur Monsieur Platini.
Nous tu dis comme tu veux. Oui, si tu veux. La nouvelle génération, on y va, on marche sur Platini.
Sur Platini. Où il dit qu'il est sur sa route, quoi. Que, ouais. Voilà, il va, et sa route doit avancer, et il doit dépasser Michel Platini. Je trouve qu'il le dit assez bien.
Mais il y a un truc que j'aime beaucoup avec Kylian Mbappé, c'est qu'il a l'impression qu'il prend quand même du plaisir à répondre.
Oui. Il a dit qu'il aime bien l'exercice.
Ouais, donc ça c'est super quand même.
Mais franchement, tout le monde a le sourire quand tu le regardes faire une conf là.
Par contre, Deschamps, il doit passer après.
Il a un petit rictus Deschamps après, quand il passe après. Ouais. Bon, il a choisi. On verra plus tard. Voilà les gars pour l'équipe de France d'un instant. Le Paris Saint-Germain, les déclarations de Nasser Al-Khelaifi dans Marca qui sont passées un peu inaperçues. On va prendre le temps d'en parler ce soir dans l'after avec un avis de Walid. Dans un instant, vous écoutez RMC, l'After Foot, 23h31. Kevin Diaz, Walid Acharchour, à tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit, l'After Foot.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz et Walid Acharchour, c'est l'after sur RMC, 23h34. On est ensemble jusqu'à minuit, messieurs. Tiens, on en parlera dans un instant également, mais c'est officiel. Antonio Conte viré de son poste d'entraîneur de Tottenham. Annonce du club il y a quelques secondes. Grosse rumeur déjà, Julian Nagelsmann pour le remplacer. On en parlera en fin d'after si on a plus d'informations. Ça fait deux grosses infos entraîneur viré en l'espace de 48
heures. Logique pour Antonio Conte quand même.
Il s'est massacré tout seul en conférence de presse.
Mais c'était même avec ses résultats et son fond de jeu.
Tout à fait. Alors Nasser Al-Khelaifi dans Marca, quotidien espagnol. Vendredi, on a dit un peu plus sur le projet PSG pour la saison prochaine. Alors d'abord, il s'est dit très fier du travail accompli. En 11 ans, nous avons remporté 9 fois le championnat. Les titres sont très importants. Nous avons augmenté la valeur du club de 70 millions d'euros à 700 millions d'euros. Ça, on le savait, c'est une réussite.
Oui, c'est très bien.
Parisienne. Ouais. Voilà. Très beau travail de la suite marketing. Le PSG est une marque internationale. Voilà.
Exactement.
Pour le sportif, il déclare, nous avons fait du bon travail et nous allons continuer à grandir, mais nous avons besoin d'idées car ce n'est pas qu'une question d'argent. Nous travaillons pour garder Mbappé, pour garder Messi, pour garder Ramos. Nous allons analyser ce que nous faisons. Nous ne ferons pas d'erreur. Et puis il finit, au-delà de ces trois-là, il faut se concentrer sur les jeunes et le talent que nous avons pour l'avenir. C'est une des transformations que nous menons au club. Dernière déclaration a inspiré un avis tranché, très tranché,
à Walid Achachour.
Il a pris un petit peu cette base-là pour en fructifier les fruits.
Walid.
Oui, je voulais revenir sur cette déclaration de Nasser El Khelaïfi qu'on attendait, hein, parce qu'on n'a pas eu le son de cloche du président du Paris Saint-Germain post-Bayern Munich, notamment. On avait envie d'y croire. On se disait peut-être que naïvement, il y allait avoir la fameuse refonte de l'an 2 de Campos, notamment. On a eu une réponse négative avec encore une fois un discours de Nasser El Khelaïfi encore déconnecté de la réalité, quoi, de la réalité sportive. Alors comme tu l'as dit, sur le marketing, sur toutes les histoires de la montée en puissance de la marque du Paris Saint-Germain, très très bien. Nasser El Khelaïfi a fait du très très bon boulot, mais encore une fois on nous explique qu'on va prolonger deux joueurs qui approchent les 36 ans ou qui ont 36 ans, deux joueurs qui même si statistiquement pour Lionel Messi a répondu présent en Ligue 1, ne correspond plus en tout cas sur l'avenir à ce que demande un club comme le Paris Saint-Germain, en tout cas l'ambition du PSG. La même chose pour un Sergio Ramos qui, même si sur les dernières semaines c'était un peu mieux, quand on voit le bilan des deux premières années de Sergio Ramos, c'est-à-dire l'année dernière qui est blanche et cette année où les six premiers mois sont catastrophiques, on peut pas être un club exigeant quand on voit ce qui se passe au Bayern, notamment actuellement avec Thomas Tuchel. On peut pas avoir un président qui vient nous servir la soupe en disant qu'on va essayer de prolonger après une débâcle pareille, après un début d'année 2023 pareil, en disant que presque voilà tout va bien et qu'on va encore gagner la Ligue 1 et que c'est ce qu'il faut pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, moi j'ai encore pris une claque. Bon, j'étais pas surpris, hein, mais j'ai encore pris une claque par le dirigeant, le président du Paris Saint-Germain qui doit normalement donner le là et donner le ton de ce qui va se passer sur les prochaines semaines. Et on est encore dans ce que fait le Paris Saint-Germain depuis plusieurs années, c'est-à-dire s'enliser.
Kevin, tu veux réagir? Dans un instant, je vous donnerai également le communiqué du CUP. Vas-y.
Alors, déjà, je voudrais juste réagir sur l'histoire de. Ils ont acheté le Paris Saint-Germain 70 millions. Aujourd'hui, ça vaut 700 millions. Alors moi, je n'ai jamais acheté un club, mais en investissement, j'en ai fait un ou deux. À partir du moment où il faut savoir quand même combien ils ont investi pour faire que cette marque ait cette valeur-là aujourd'hui. Parce que demain, si tu achètes un appartement 100 000 euros, tu fais 800 000 euros de travaux et que tu dis « Ah ouais, mon appartement aujourd'hui vaut 600 000 ». D'accord, mais bon, les gars, ils ont investi une pelletée d'argent. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, est-ce que aujourd'hui le modèle économique du Paris Saint-Germain, s'il était racheté par quelqu'un d'autre, est-ce qu'il est viable économiquement? Est-ce que c'est viable d'avoir ces joueurs à ce salaire-là? Et est-ce que tu vends assez de maillots pour payer ces joueurs? Est-ce que t'es bien au niveau du fair play financier? Est-ce que tu peux continuer d'investir raisonnablement? Non, en fait. Donc, déjà, son argument financier, moi, je le prends pas en compte. Après, au niveau de l'image, franchement, hein, comme vous le savez, j'ai quand même plusieurs cultures. Je reviens des Pays-Bas. Ils sourient quand même très, très fort quand ils voient le Paris Saint-Germain.
Pas que les Pays-Bas.
Ils te disent quoi? T'as parlé avec qui?
Bah, j'ai parlé avec des clubs, j'ai parlé avec des gens qui sont journalistes. Bah, ils disent que c'est d'un ridicule sans nom, un peu comme dit Carragher. C'est-à-dire que investir autant d'argent pour à chaque fois être, ou pas à chaque fois, mais très souvent quand même être éliminé en huitième de finale et ne pas comprendre que un projet c'est pas que des noms, c'est aussi football, c'est aussi construire une équipe. Bah, voilà, c'est ce qu'on dit nous ici dans l'after foot ou en France, les supporters du Paris Saint-Germain sont encore plus conscients que nous.
Je vais donner l'exemple du Bayern. Il y a des joueurs qui, sur les dernières années, étaient en concurrence pour aller au Bayern ou pour aller au Paris Saint-Germain. Ceux qui ont été au PSG, les dirigeants du Bayern disaient quoi à l'entourage du joueur ou à l'agent du joueur? Ah, tu vas rejoindre le club de clown.
Ah oui.
Non, mais texto. Texto. Tu veux aller là-bas, c'est pour Instagram, c'est pas pour gagner des titres. Par contre, si tu veux vraiment gagner des titres, tu reviendras ici. Ouais. C'est quand même des phrases très très fortes.
Non,
et quand
voilà.
On prend l'exemple du Bayern, parce que on n'a même pas besoin d'aller jusqu'aux Pays-Bas. Mais quand tu vois que Oliver Kahn, Salihamidzic t'explique que Nagelsmann, qui a fait 18 points en phase de poule contre le Barça, qui va gagner la Liga contre l'Inter Milan, qui est en quart de finale de Ligue des Champions, qui a pris zéro but en aller-retour contre le même Paris Saint-Germain, avec une grande sérénité, s'est fait limoger.
C'est pas que sur les résultats qu'il est limogé, c'est sur l'ambiance générale.
Il est quand même limogé.
Non, mais il est quand même limogé. Avant,
faire des joueurs l'apprécient quand même.
Ah, bah oui, mais c'est super. C'est super parce que c'est le Club Med. Et encore, non, Galtier n'est pas apprécié par la majorité des joueurs dans le vestiaire. Mais au-delà des résultats, il a expliqué qu'il y avait le processus, ce qu'il mettait en place, peut-être aussi humainement, mais c'est global. On a quand même un club, le Bayern Munich, qui avant un quart de finale saute son entraîneur. Et de l'autre côté, une équipe qui s'est fait éliminer par cette équipe, on a un président qui arrive et qui t'explique que tout va bien, qui t'explique que les deux joueurs les plus vieux et qui ont une grosse masse salariale vont être prolongés. Ils font tout pour prolonger ces mecs-là. Avec tout le respect que j'ai pour Ramos et pour Lionel Messi, quand tu vois le décalage entre ce que le Bayern peut faire et ce que le Paris Saint-Germain nous donne, mais je suis désolé, mais en termes de rigueur, en termes de professionnalisme, en termes de vision club, on n'est pas sur la même planète, Nico. Sincèrement, les échos qu'on a entre les deux, c'est assez dingue. C'est fou. Et on pouvait se dire, peut-être qu'il va faire quelque chose, un grand ménage, etc. Non. Mais on nous dit qu'à l'intérieur du club, les échos, c'est Galtier pour avoir une deuxième chance, que Campos va peut-être rester ou va peut-être partir, et que Ramos et Messi. Donc en fait, là, tout ce qui se passe, mais tout va bien, en fait. C'est ce que le PSG veut.
Le Parc des Princes est plein, 700 millions valorisés à 700 millions d'euros, notoriété à l'international.
700 millions, je viens t'en parler.
Nico, tu sais, t'es pas obligé de dire
rapidement,
ça,
le collectif Ultra Paris.
Non, je sais que c'est pas obligé.
Le collectif Ultra Paris, communiqué publié hier par le CUP, hein, qui explique qu'ils vont continuer le soutien jusqu'à l'obtention du 11e titre de champion, ce qui se veut historique. Mais il demande également à rencontrer le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, pour l'exposer de vive voix les nombreux problèmes qu'ils ont identifiés dans et autour du club sportif et extrasportif depuis de longues années. Bon, le communiqué est un peu plus long, mais ils ont voulu montrer qu'ils n'étaient pas dupes de la politique actuelle menée par le PSG. C'est parce qu'ils sont silencieux au Parc des Princes qu'ils vont accepter la stratégie encore à venir qui va s'étirer de la direction du Paris Saint-Germain. Voilà. Ils se feront entendre certainement dans les prochaines semaines et que le titre sera acquis.
Nico, bon. Rien ne changera. Donc Nasser Al-Khelaïfi ne peut pas bouger du PSG. Nasser Al-Khelaïfi ne veut pas faire bouger.
C'est le sentiment qu'on a en tout cas.
Exactement. Ne veut pas faire bouger les mecs qui sont en place. Donc on aura continuellement le même type de saison avec le PSG.
Ouais, Abdel est avec nous, 32-16, supporter du PSG. Salut Abdel.
C'est fatigant.
Salut Kevin. Salut Walid.
Salut Abdel.
Salut Abdel. Salut Nico.
Salut Walid. Salut Abdel. Alors.
En fait, c'est quand même curieux quand même l'interview de Nasser, parce que il dit d'un côté qu'il veut prolonger deux vieillards et puis à côté faire un projet autour des jeunes.
L'un et l'autre ensemble, tu vois, de l'ancien expérimenté, l'autorité de Ramos, le talent de Messi associé à Mbappé et derrière les jeunes du PSG. Il a parlé également de notamment Bichabou, entre autres, de Zaire Emery, sur lesquels il veut s'appuyer pour les saisons à venir.
Ils veulent faire revenir Xavi Simons aussi.
Et le tout en gardant un coach qui n'arrête pas de fusiller les jeunes à la moindre erreur.
Ouais, ça aussi,
ça c'est vrai.
Il y a des trucs qui collent pas ensemble. Et c'est ce que disait Walid, il est déçu du discours de Nasser, mais moi je suis même pas déçu. En vrai.
Non, mais je rigole, c'est de l'ironie quand je dis ça.
Oui, bien sûr, j'avais compris, mais moi j'ai arrêté d'être dépité. Parce qu'en fait, au final, ça sert à quoi? Ils vont faire. En fait, ça frise la folie de faire les mêmes conneries tous les ans en pensant qu'un jour ça paiera. C'est exactement ce qu'ils font.
Non, mais ce qui est dingue, c'est que dans le fameux trio qu'on décrit depuis le début de saison là avec Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, on dit qu'ils font en enlever un. On sait très très bien qu'avec le contrat mirobolant de Neymar, comme l'année dernière, ça va être impossible de le sortir, surtout après une blessure de 4 mois où personne ne pourra payer son salaire. Il a une possibilité d'arrêter le contrat de Lionel Messi en disant « Voilà Lionel, merci pour les maillots, merci pour ce que tu as fait. Là, on a une opportunité de finir. » Tu peux aller au Barça, tu peux aller autre part, tu peux faire ce que tu veux, mais nous, Terminus, tout le monde descend.
On a vraiment.
Non, juste attends, Kevin.
Laissez Abdel.
Non, mais Terminus, tout le monde descend, et qu'est-ce qu'il fait? Il veut reprolonger Lionel Messi.
Vas-y, Abdel.
Non, mais Walid, sur ce volet-là, faut pas perdre de vue que c'est pas Nasser qui a le dernier mot.
C'est qui?
Non, mais. D'après moi, c'est l'émir.
Ah, il y a sûrement une volonté à Doha de conserver Messi,
oui,
quoi.
Parce qu'ils ont
mis sur leur podium il y a deux mois et demi, trois mois.
La Coupe du Monde, il n'y aura pas la Coupe du Monde.
Mais c'est ce que j'allais dire. Pour eux, en fait, avoir
le plus grand joueur de l'histoire, un an de plus, c'est énorme.
Avoir Lionel Messi, c'est un peu comme un joueur qui ne voudrait pas arrêter la sélection. Tu vois, c'est-à-dire que pour eux, quand tu as un joueur, tant qu'il veut rester avec toi, eux, ils partent du principe que c'est le meilleur joueur de l'histoire. Mmh. Ils n'ont pas des notions footballistiques. Ils vont pas voir si le mec, il se replace, si le mec, il déséquilibre une équipe. Non, c'est qu'il est meilleur joueur. Ils, tu vois, ils prennent le capitaine du Brésil. Bon, même si c'est pas le capitaine du Brésil, Neymar. Mmh. Et le meilleur joueur du Brésil.
Le 10 de la France
voilà. Et le 10 voilà. de l'Argentine. Voilà. Et tant qu'on les a, non, mais en fait, ça va finir par le faire.
Okay.
Eux, l'équilibre, le 4-4-2, le 3-4-3, c'est pas leur problème.
D'accord.
Et donc, à partir de là, c'est malheureux, mais j'ai vraiment l'impression que ils sont plus dans la marque et dans ce qu'apporte le fait de se dire que ils ont gardé Lionel Messi.
Et en se disant que sur malentendu, ça pourrait peut-être passer un jour. Merci Adèle, c'est fini.
On en reparlera cette semaine. Comme un affront qu'il retourne au Barça, par exemple.
On en reparlera cette semaine, Adèle. Tu pourras rappeler, hein, malheureusement, ton intervention a été écourtée. On en reparlera là, cette semaine dans l'after, hein, semaine sans match, l'équipe de France demain soir. Puis on aura 4 heures tous les soirs pour évoquer les déclarations, notamment de Nasser Al-Khelaifi. Dans un instant, les gars, on va revenir sur l'éviction. Donc, c'est l'info de la soirée d'Antonio Conte à la tête de Tottenham. Est-ce que Julian Nagelsmann arrive? Julien Laurent sera avec nous dans un instant dans l'after avec Walid Acharchour et Kevin Diaz. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Jamin.
Avec Walid Acharchour et Kevin Diaz, RMC, l'after, 23h48. J'accueille tout de suite Julien Laurent. Salut Julien.
Salut Nico, salut à tous.
Salut Julien.
Alors avant qu'on parle de Tottenham et d'Antonio Conte, je rappelle que ta sélection, l'Angleterre, s'est imposée 2-0 face à l'Ukraine. C'était dans l'après-midi. Aujourd'hui, ce soir, pardon, l'Italie est allée gagner. Ça va faire du bien à l'Italie, 2-0 à Malte. Donc l'Angleterre, leader de ce groupe, c'est 6 points. L'Italie est derrière avec 3 points. Je rappelle également que le Portugal s'est imposé 6-0 sur la pelouse de Luxembourg avec notamment un doublé de Cristiano Ronaldo qui en est désormais à 121 buts. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Hein. Je pourrais vous dire également que le Kazakhstan a signé l'exploit de son histoire en battant le Danemark 3-2 après avoir été mené 2-0. Alors Julien, l'info du soir, bon, t'es pas surpris, on en parlait lundi soir, hein, après la conférence de presse incroyable d'Antonio Conte, c'est terminé pour l'Italien à Tottenham.
C'est terminé, effectivement. Ça a mis une semaine, en gros un peu plus d'une semaine, pour régler les derniers détails de son éviction, de son limogeage. Alors le club a annoncé aujourd'hui que c'était, enfin ce soir, que c'était accord mutuel. On sait que c'est pas le cas, bien sûr. Il y a eu donc une compensation du club pour compter à qui restait un peu plus de trois mois de contrat, bien sûr, puisqu'il était en fin de contrat au mois de juin. La surprise, peut-être finalement, c'est pas l'éviction de Conte en elle-même, parce que comme tu l'as dit, on s'y attendait. C'est peut-être que c'est son adjoint, Christian Stellini, son fidèle adjoint, qui va donc assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison avec Ryan Mason, l'ancien joueur du club, qui faisait aussi partie du staff de Conte, qui faisait partie du staff d'ailleurs des entraîneurs précédents, qui avait déjà assuré par exemple l'intérim après le départ de José Mourinho. Mais on s'attendait plus à ce que ce soit Ryan Mason tout seul, plus que Christian Stellini abandonne entre guillemets un petit peu le binôme.
Il n'avait pas été un peu intérimé, Ryan Mason avant Conte, non, il n'avait pas fait une semaine.
C'est ce qu'il vient de dire après Mourinho.
Excuse-moi, Julien.
Ouais. Non, et puis Christian Stellini surtout avait assuré les quelques matchs lors de la maladie d'Antonio Conte, quand il s'est fait opérer il y a quelques semaines de ça. C'était Stellini qui avait assuré donc en tant que numéro un, si vous voulez, les quelques matchs. Il avait fait les conférences de presse, il était sur le banc, Mason l'assistait, mais c'est vrai que c'était Stellini le numéro un. Ça avait plutôt bien marché, puisqu'il avait battu Manchester City, par exemple, avec Christian Stellini comme entraîneur principal. Donc, je pense que c'est ça, peut-être, qui a convaincu Tottenham de garder Stellini. Mais enfin, c'est en général comme ça, les binômes partent avec les entraîneurs principaux. C'est très rare qu'on voit un numéro 2 ne pas suivre l'entraîneur principal.
Surtout c'est lui qui l'a fait venir.
Il y a une course au top 4 quand même,
bien sûr,
jusqu'à la fin là, avec Newcastle, Liverpool, ouais, Brighton, donc
c'est ça. Il leur reste 10 matchs pour accrocher la Ligue des Champions, c'est l'objectif. Il leur reste plus que ça de toute façon, puisqu'ils ont été mis dans toutes les autres compétitions. Donc il reste que ça, accrocher une 4e place. Et puis ensuite, maintenant, préparer l'après Stellini, parce qu'à moins qu'il gagne les 10 prochains matchs et qu'il finisse la saison avec 10 victoires en 10 rencontres, je pense pas que ce sera lui qui sera nommé de manière permanente cet été. Donc voilà, on sait qu'il y a une shortlist avec Julian Nagelsmann par exemple dessus, avec Luis Enrique dessus, avec Robert De Zerbi par exemple. Donc c'est vrai que Roberto De Zerbi. Donc c'est vrai que Nagelsmann est venu s'ajouter à une préliste qui existait déjà. Donc je pense pas que ce sera Stellini qui gardera le poste, mais on sait jamais. Hein, on sait
jamais. Personne ne parle du retour de Pochettino.
Et Pochettino, bien sûr, si, mais ça on en avait déjà parlé lundi. Il fait partie des favoris selon les bookmakers au club. Je pense que c'est un peu partagé, c'est un peu mitigé. Je pense qu'il y a certaines personnes qui voudraient qu'il revienne, même dans le vestiaire. D'autres qui pensent que c'est pas forcément une bonne idée de faire revenir Pochettino. Lui, je sais pas vraiment. Je pense que lui a envie de revenir en Angleterre, c'est sûr, en première ligue. Mais est-ce que ce serait une bonne idée qu'il revienne? Je sais pas.
En tout cas, Julien, on peut quand même conclure après quelques années maintenant, quelle erreur monumentale d'avoir viré Pochettino de la part du club.
Ah, il voulait partir aussi. Hein.
Mais oui.
Ouais, c'était pas que le club.
C'était quand même une erreur monumentale de l'avoir sorti pour Mourinho à ce moment-là, etc.
Moi, je trouve. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que lui voulait partir. Je pense qu'il en avait eu assez. Quand il est revenu après les vacances, après la finale de la Ligue des Champions, c'était plus du tout le même. C'était plus tout le même. Mais d'ailleurs, rappelez-vous, avant la finale de la Ligue des Champions, il dit, si on gagne cette finale, si on remporte la Ligue des Champions, je m'en vais. Donc, déjà, dans son esprit, il était déjà parti, parce que tu peux pas l'annoncer comme ça avant, parce que ça veut dire que tu as déjà réfléchi, tu as déjà pensé.
Quand je dis erreur monumentale, c'est de la part du club et de la part de l'entraîneur, dans ce cas, mais c'était quand même une erreur pour ce club, je trouve, pour son développement.
Ouais, plus. Il avait donné ce qu'il avait donné à Tottenham. Il a fait 6 saisons, à Tottenham, Mauricio Pochettino.
Et Antonio Conte, Julien, on en pense quoi de son bilan à Tottenham? C'est un sacré échec, quand même.
Alors oui, ça dépend comment tu mesures l'échec, parce que la saison dernière ils accrochent la Ligue des Champions, oui, il y a ce Manu Amalo avec Arsenal, ils doublent Arsenal, ce qui pour les supporters était encore mieux que finir juste quatrième. Mais oui, t'as raison, c'est surtout sur cette saison-là, parce que finalement si tu regardes, il a acheté 14 joueurs depuis qu'il est en poste, ils ont dépensé 150 millions d'euros, donc il peut pas dire que le club l'a pas soutenu, que le club l'a pas investi.
Il y avait de l'ambition au début de saison quand même. Hein.
Ouais, bien sûr. Tout le monde pensait qu'il allait construire sur la saison dernière, justement, sur ce qu'il avait atteint, sur ce top 4 là. Et puis finalement, pas du tout, quoi. Ça a été des hauts et des bas, plus de bas que de hauts. Ça a été des gros coups de gueule. Ça a été des incompréhensions. Alors, on l'avait dit lundi un petit peu, mais c'est vrai qu'il a beaucoup souffert personnellement du décès de Van Tronet, du décès de Mihalovic, du décès de Viali, bien sûr. Je pense qu'il en a vraiment beaucoup souffert, mais et de sa maladie aussi. Enfin, voilà, est-ce qu'il a tenu écarté du banc pendant quelques semaines, mais au final, c'était pas suffisant. Et je pense qu'il a montré ses limites à lui, peut-être dans son évolution personnelle aussi, de pas avoir su évoluer en revenant en Angleterre, en arrivant à Tottenham. Je sais pas. C'est très bizarre parce que, bien sûr, c'est un effectif qui manque un petit peu de qualité et de quantité. Ça, je le veux bien. De créativité notamment, ça c'est sûr, mais c'est quand même un bon effectif, je pense. Il a quand même Harry Kane, il a quand même des super joueurs, et ils auraient dû faire mieux que
surtout quand tu vois que cette année Liverpool est en dessous, qu'on a Chelsea
aussi.
À Chelsea, donc il y avait quand même de la place. Mais Antonio Conte, c'est un coach qui se rajoute à la liste potentiel d'un remplaçant à Christophe Galtier au Paris Saint-Germain.
Ou ailleurs, on parlait lundi soir de la possibilité Inter pour Antonio Conte, peut-être. Bon, il y a du monde sur le marché. Nagelsmann est aussi là, tu l'as dit, dans la shortlist pour
Zidane.
Ouais, ça fait du bon.
On va voir Klopp comment ça se termine.
Il y a bientôt Ancelotti, c'est le Brésil.
Peut-être qu'il va prendre le Brésil, mais il y a quand même pas mal de coachs sur le marché.
En tout cas, Tottenham, oui, on l'a dit, quatrième de première ligue, mais avec 2 points d'avance sur Newcastle, qui a 2 matchs en moins sur Tottenham. Tottenham qui ira à Everton, enfin jouer Everton. Ce sera lundi 3 avril prochain, bien sûr. Merci, Julien. Excellent. Merci, un mot de l'Angleterre. Harry Kane qui a encore planté 2-0.
Saka,
encore.
Ouais, but de Saka, magnifique. Oh, Saka, effectivement, le petit prodige. Après, je me suis ennuyé, je vais pas vous le cacher. Je me suis ennuyé. Je pense qu'on s'est tous ennuyés à regarder ce match.
L'Angleterre est quasiment qualifié, on peut le dire.
Oui, c'est ça. À part l'éclair Saka, effectivement. Et puis encore un but pour Harry Kane qui jouait avec des chaussures spéciales après son record du match précédent contre l'Italie. Donc c'est bien pour Kane, c'est bien pour Saka. On a vu James Maddison que beaucoup voulaient voir dans cette équipe-là, même s'il a joué un petit peu hors de position. C'est Sylvain Ripoll l'anglais, hein, ça se réinvente pas. Mais on s'est un peu ennuyé, mais le plus important c'est de gagner. Ils l'ont fait, donc voilà, 2 matchs de victoire. Ils ont encore marqué 2 buts, mais en face c'était trop faible de la part de l'Ukraine, malgré les bons joueurs qu'ils ont. Mais c'était trop, voilà, ils y sont pas. C'est ce qui est complètement compréhensible. Et l'Angleterre était trop forte finalement, même si elle a finalement pas dépassé la deuxième vitesse, quoi.
Merci Julien. À très vite dans l'after.
C'est
excellent. Bonne soirée, fin de dimanche soir à toi, les gars. Donc, je le disais tout à l'heure, l'Italie s'est imposée 2-0 à Malte. Encore un but de Matteo Retegui. L'homme ne savait pas il y a un mois qu'il était italien. Appelé par Roberto Mancini, arrière-grand-père italien. Il arrive, il parle pas la langue.
L'homme que je ne connaissais pas il y a encore 3 jours.
Pareil, il marque 2 buts. L'Italie s'impose 2-0. Verratti a joué une grosse demi-heure. Et puis le Portugal, je le disais, avec un doublé de Ronaldo, avec un excellent Bernardo Silva. Passeur, buteur, victoire face au Luxembourg dans un stade qui était portugais. sur les buts de Ronaldo, c'était Siou général.
Grosse communauté portugaise.
16% de la population du Luxembourg est portugaise.
Ah, je ne savais pas.
C'est énorme. 100 000 Portugais au Luxembourg. Voilà. Voilà, c'était, on va finir sur une info culturelle, messieurs, si ça vous va.
Merci Nico.
Et on se retrouve dès demain soir, bien sûr, pour le match de l'équipe de France.
J'espère avoir fait une émission à plus de 4,5.
Ouais. Ah, tu étais, ouais. Petite moyenne. Ouais. 6 moyenne, 4,5.
Ouais, c'est. Merci, Kevin.
6, c'est bien payé, 6.
Nico, on dirait mon prof d'histoire géo.
Si, c'est bien.
Ah, j'aurais aimé, j'ai failli.
Nico, c'est un très bon journaliste, mais il donne pas les bons points facilement.
Ah, ouais, d'accord, il est.
Ah, ouais, c'est dur.
Ah, il est exigeant.
C'est un, ouais, professeur exigeant.
Ouais.
Exactement.
Paris 19e.
Pablo Neruda, qui était-il, Walid, quand même?
Pablo Neruda, qui était le milieu de terrain de Cadiz.
Allez, on va arrêter là-dessus. Désolé, Pablo, hein, grand poète. Restez sur RMC et nous serons demain pour l'after, pour le match Irlande-France, le débrief dans la foulée. Bonne soirée à vous. Merci, Walid. Merci, Kevin.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.